La cinquième saison de Parents pour la première fois est commanditée par Charlotte et Charlie, la destination spécialisée en accessoires, jouets, meubles et vêtements pour bébés et jeunes enfants de 0 à 10 ans. Du premier regard au premier jour d'école, retrouvez des produits de qualité signés par des marques locales et de renommée internationale. De quoi souligner et accompagner chaque moment qui compte. Chez Charlotte et Charlie, tout est offert pour simplifier la vie des futurs et des nouveaux parents, de l'expertise de leur équipe, au grand soin avec lequel est choisie leur sélection de produits, chacun y trouvera ce dont il a besoin. Abordez la vie avec authenticité, élégance et simplicité avec Charlotte et Charlie. Bon épisode!
Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invité d'aujourd'hui est Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, réalisateur et papa deux fois. Allô, Jonathan.
Allô, Véro.
La liste est longue quand même, des noms.
Elle est extrêmement longue, mais j'aime mieux ça que me faire présenter comme un artiste. Souvent, ils me font « Ah bon, on va juste dire que t'es artiste. » Ben, il dit que je suis multidisciplinaire, OK?
Oui, c'est ça.
On dit artiste, pour moi, c'est trop grand, puis je suis loin d'être là, je viens d'avoir 40. Pour un artiste, tu lui dis à 67 ans, bravo pour votre belle carrière d'artiste.
C'est bon.
T'as peint des belles toiles, t'es un artiste.
Le plus beau rôle, de toute façon, c'est celui d'être papa.
C'est le plus difficile, surtout. C'est le plus beau, mais le plus challengeant.
C'est celui qu'on apprend sur le tas aussi.
Ouais, vraiment. Puis surtout, et ça, je l'ai souvent dit, puis je me fais toujours lancer des roches, à chaque fois je le dis, mais je trouve que comme père, quand j'étais porte-parole de la Semaine québécoise de la coparentalité puis de la paternité, chaque fois que j'abordais ce sujet-là, on dirait que ça choquait certaines mamans. Puis je suis comme, ben, les papas, on apprend un petit peu plus sur le tas en ce moment que les mamans, je crois, parce que on n'a pas eu beaucoup de modèles avant nous, de pères qui s'impliquaient. Mais maintenant, moi, quand je suis jeune, je vais chez mes amis, c'est la maman qui s'implique. C'est la maman. Là où, par exemple, je peux donner, maintenant, là où c'est challengeant, c'est, tu sais, les femmes sont nouvellement depuis 30 ans, vraiment majoritairement sur le marché du travail. Donc, le challenge de la parentalité avec ton travail versus, tu sais, la vie de famille, ça, c'est nouveau pour
toi. Oui, absolument. Ça, c'est puis d'où le fait de donner l'exemple.
Ouais, exact. Parce que vous n'avez pas eu de modèle de mère, en tout cas majoritairement, de mère qui allait travailler et qui s'occupait de la famille en plus. Et on sait que la charge mentale est encore beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc, vous avez vraiment un poids que nous, on n'a pas là-dessus.
C'est un apprentissage là, d'essayer de répartir ça, et, 50-50, plus ou moins.
Je pense qu'on ne l'atteindra jamais, le 50-50, dépendant des forces et les faiblesses d'un couple. Ça ne sera jamais unanime dans tous les maisons, tu sais.
Exact.
Mais je trouve que les gars, en ce moment, en tout cas, moi, les gars dans mon entourage, je les vois essayer, puis le trois quarts me disent la même chose. Mon père travaillait 6 jours semaine, mon père était froid. Tu sais, il allait me brosser la tête en me disant bravo, t'as eu un beau bulletin, mais c'était sans plus. Là. C'est pas comment que ça souriait faire mon exposé oral à la table quand j'étais petit, c'était ma mère, tu sais. Aujourd'hui, moi, de m'asseoir à une table, je sais que j'apprends sur le tas, tu sais. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je parle trop comme un gars de shop? Je parle trop comme trop directif avec un enfant de 8 ans? C'est-tu correct ma façon de faire? Parce que oui, fait qu'on apprend sur le tas, puis je pense que la génération de mes fils auront au moins eu, seront dans
un meilleur modèle.
La deuxième génération à avoir des pères impliqués. T'sais, j'en ai des amis qui ont un père impliqué. Mais quotidiennement, dans les tâches, les repas, le ménage, moi, je me rappelle, je pense que j'ai jamais vu mon père prendre une brassée dans la sécheuse, la monter en haut, puis la plier en regardant la télé.
OK, fait que toi, est-ce que ça l'a influencé, ton rôle de père? Est-ce que tu t'es...
Zéro. Au contraire, moi, je trouvais ça poche. Je ne peux pas y lancer des roches à mon père. Tu sais, je dis,
non.
On peut pas y avoir.
Exactement, c'est une autre génération.
Lui, c'était pas mal quand il le faisait.
Mais non, c'était ça.
Mal, il fait pareil, tu es un trou de cul, mais si tu le sais pas. Tu sais, maintenant, je voyais qu'on était 5 enfants chez nous, puis je voyais ma mère gauler, puis je me promettais que plus tard, ça serait pas ça chez moi.
OK.
Je m'en rappelais, j'allais chez un ami, François, son père cuisinait. C'est la première fois que je voyais un homme cuisiner, genre 1991, 92.
OK.
C'est son père qui faisait souper. Pour vrai, il n'y avait pas beaucoup, là, en 1990, des pères qui faisaient souper. Mais il n'avait rien dans la gang, là. Les amis, leurs parents étaient séparés, puis ils voyaient une fin de semaine sur deux, là. C'est ça, le bonhomme, là.
Ouais, t'as raison.
Je me promettais que ma femme n'allait pas rusher comme ma mère avait rusher. C'était comme, c'était ça, mes objectifs.
OK. Est-ce que t'as toujours voulu être papa?
Depuis que je suis petit, je suis plus vieux de 5 enfants. Mon père était pas beaucoup, il était pas absent péjorativement, puis il travaillait beaucoup, puis il était jamais là. Tu sais, j'ai commencé à travailler, moi, en 5e année.
En 5e année?
J'ai jamais arrêté de travailler.
T'as fait quoi, ça, en 5e année?
Je passais les journaux. Tu sais, je passais la presse. Elle m'a pas signé avec mes deux gros sacs. Puis je me levais à 5 heures le matin avant d'aller à l'école. Tu sais, c'était comme de faire des sous. Puis les sous, j'en donnais à ma mère parce que mon père n'était pas toujours là.
Okay.
Mon père a été toxicomane pendant un bout de temps. Fait que pendant un an ou presque, j'ai pas vu mon père. Il était en thérapie.
OK.
Fait que, tu sais, fallait que j'aide ma mère. Fait que, tu sais, t'es plus vieux de 5 enfants rapidement. Tu donnes un coup de main à la maison. Je me rappelle que j'étais donc content. Puis mon père avait été pareil petit. Puis, comme je dis, jamais je lancerai de roche à mon père publiquement parce que c'est un modèle vivant, cet homme-là, tu sais.
T'as partagé la charge mentale avec ta mère, finalement.
Oui, exactement. Fait que pour moi, ça faisait, c'était comme, ah, quand je vais avoir des enfants. Fait que, puis là, très jeune, je tombais amoureux d'une fille qui s'appelle Caroline. Et, moi, tout de suite, c'était, on veut des enfants. Elle, on en voulait genre 5. Puis c'était comme, OK, go, parfait. On fait des enfants et j'ai découvert le voyage. Et
en
là,
même
première fois de ma vie, ouais, okay. C'est ça le problème. J'ai découvert la liberté parce que quand tu pars d'une maison, tu t'es toujours occupé de tout avec ta mère, autant des repas que du lavage que. Tu sais, ma mère a travaillé pour l'entreprise à mon père. Parce que mon père, après ça, quand je suis en 5e, 6e année, t'es en thérapie pour l'alcool et d'autres choses. Et après ça, il est devenu, écoute, sobre et l'homme le plus travaillant du monde et le plus droit pour sa famille qu'il n'y a pas, tu sais.
OK.
Son entreprise, qui avait des employés. Moi, j'ai vu un père partir vraiment de bas et d'amener une entreprise au top. Ma mère travaillait pour l'entreprise à mon père. Fait que là, c'était. Les gens excessifs sont souvent excessifs aussi dans tout ce qu'ils font. Fait qu'ils travaillaient. Fait que moi, j'avais deux petites soeurs à la maison, j'arrivais de l'école. Ben, ma mère me disait, écoute, la sauce est là, t'es en train de déjeuner, tu peux faire un souper pour tout le monde. Je retourne en arrière, faut qu'on fasse l'infographie, qu'on sorte des posters pour le festival, whatever quoi. C'est comme, OK, parfait. Fait que j'ai toujours eu cette charge mentale-là. Quand je suis parti en appartement, puis que je me levais le matin dans un appart silencieux, que je prenais un café, et j'ai eu un 2 ans, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est ça vivre? Et puis c'est comme, ah, attends une minute, j'ai de l'argent, je peux partir n'importe où en pack-sac. Et là, j'avais promis une fille qu'on allait avoir des enfants, là, puis elle était comme, ben quand est-ce qu'on fait des enfants? On est ensemble pour ça. Puis je suis comme, ouais, ben attends, je fais un autre pays ou deux, là. Puis, puis quand elle est tombée enceinte, ça faisait 6-7 ans qu'elle attendait, tu sais.
OK, quand même.
Et ouais. Mais j'ai eu jeune, mes enfants, j'ai eu 25.
Mais j'ai envie que tu me racontes, justement, c'était quoi tes émotions quand elle est tombée enceinte, puis ça a été quoi durant sa grossesse?
C'est, mettons, méga transparent, là. Ça faisait peut-être 6 mois que j'hésitais si mon couple allait toffer le restant de mes jours.
Ah oui, hein? Puis elle est tombée enceinte à ce moment-là.
Elle est tombée enceinte. Et j'ai fait, tu sais, le fameux gars qui fait, ah, ça va nous l'approcher, tu sais.
OK.
On a tellement été amoureux, je peux pas croire que je suis plus amoureux, tu sais.
OK, ouais, ouais.
Moi, j'ai vu des parents affronter, tu sais, toutes les tempêtes du monde. Fait que dans ma tête, c'était, ben, ça va nous rapprocher, ça va être comme mes parents.
Ouais, ça va solidifier notre couple.
Et une erreur, parce que ça me rapprochait d'elle comme ma meilleure amie, mais pas comme amoureuse, tu sais. Donc, on était 3 ans à essayer, là, puis elle le savait là, que c'était back and forward. Elle me le demandait, t'es-tu heureux? Puis je sais même plus si c'est ça que je veux. C'était une perle, elle était amoureuse de moi, puis tout. Puis je trouvais qu'elle méritait mieux que moi, tu sais. C'est cliché, puis c'est quétaine, mais tu sais, absolu.
Ouais, tu le sais que tu donnes pas ton.
Parce que tu l'aimes.
Ouais, ouais, ouais.
Et tu fais, on a tellement un bel enfant, on s'entend on chicane jamais. Et ce serait le moment idéal.
Non, je comprends.
On prenait pas ça, tu sais. Et fait quand la grossesse est arrivée, c'était un peu weird dans ma tête parce que j'étais super anxieux, parce que je me demandais si j'étais prêt, alors que je savais que j'étais plus prêt que la moyenne des gars. Honnêtement, là, toute la prétention du monde avec laquelle ça vient, je l'assume. Quand j'étais vraiment prêt à être père. J'avais ce que ça me prenait, mais j'aurais peut-être attendu 2 ans de plus.
Oui. Mais en même temps, là, parce que, tu sais, mettons que tu es un nouveau couple, puis là, la femme tombe enceinte. Tu sais, des fois, je me dis, de nos jours, il y a tellement de nouveaux modèles familiaux. Tu sais, des fois, on peut avoir un enfant avec une personne, puis se dire, tu sais, regarde, on va faire notre possible pour que ça marche, puis qu'on soit, tu sais, une famille, puis que notre couple fonctionne. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment la fin du monde, une séparation? Tu sais, en autant que l'enfant a ce qu'il a de besoin, tu sais, je sais pas si tu comprends ma question.
Totalement, parce que c'est comme ça que je me suis
motivée.
Moi, je me rappelais, une année, j'ai appelé ma mère en pleurant. Je me rappelle, j'étais stationné près de la rue Ontario. Et je me suis assis dans l'auto et je suis parti à pleurer. Puis j'étais comme, voyons, je pleure, qu'est-ce que j'ai, tu sais? Pourquoi je pleure autant? Une année, j'ai répété la phrase, je peux pas croire, je vais faire vivre ça à un enfant. J'étais comme, OK, tu peux t'en aller. Et j'ai appelé ma mère, là, puis j'ai demandé à formuler mes phrases. Puis, Joe, une seule question qu'il faut que tu répondes. Une seule. Est-ce que tu es encore amoureux? Non. Depuis longtemps? Ouais. As-tu tout essayé, tu penses? Oui. J'ai consulté, j'ai essayé de refaire une soirée, de faire garder le petit, j'ai essayé de faire. Je suis plus amoureux, mais je me sens mal parce que j'aime tellement cet individu-là, je veux pas lui la blesser, tu sais. Mm. Fait que moi, c'était ça, c'était, hey, je vais scraper la vie de mon fils. Je vais scraper la vie de mon fils. Je vais scraper la vie. Parce que je viens d'une famille où, devant toute tempête, tu restes ensemble, tu sais. Mes parents sont le meilleur exemple. 5 enfants, mon père a eu ses problèmes. Ils ont eu une entreprise. Ils ont eu des défis, mes parents, tu sais.
Mm.
Donc, t'es plus amoureux. La meilleure chose que tu peux faire pour ton enfant, c'est de te séparer. Et pour vrai, avec du recul, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux comme histoire qu'à vous et moi que de se séparer. Et Xav n'a jamais manqué de rien. Il me l'a dit encore des fois, hein, tu sais, à Noël cette année, il me l'a dit parce que sa mère vient ici avec son chum, on a du fun. Là, je trouve qu'elle a vraiment le genre de gars que ça lui prenait, tu sais.
Mm.
Fait qu'on est à la table, on rit, on bouffe, tout le monde cuisine. Là, on voit que on dit qu'on est chanceux, tu sais, mes amis, leurs parents sont séparés, c'est pas ça, ils comprennent pas dans ma vie, là.
Mm.
Mais tu sais, moi, c'est comme, t'aimes la chambre d'amis, puis tu sais, je dirais, Caro pourrait venir ici, elle soupe trop, Paul est pas là, son copain, on mange, on s'en va 3 bouteilles de vin, puis c'est trop ça, elle va dormir sur le divan, puis tu sais, il y aura pas de crise de jalousie, il y aura pas de...
Mais c'était quoi la recette magique pour arriver à ce genre de relation-là? Ça, est-ce que ça a pris du temps quand même avant que ça devienne...
C'est la communication. Fin,
comme ça, la communication, OK.
Et la maturité émotionnelle de Caroline.
OK.
Parce que je l'ai réalisé, tu sais, je le raconte dans un des balados que j'ai fait sur sur audio qui s'appelle
L'instinct de paternelle, ouais.
Balado sur la séparation dans lequel la maturité de mon ex m'a fait évoluer, tu sais. Mm. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles on s'entend pas encore aujourd'hui, raison pour laquelle on n'est plus ensemble, tu sais. Il y a des affaires que je la gosse, qu'elle me gosse aussi, mais on va se le dire poliment, tu sais. C'est arrivé cette semaine, et maintenant, il y a eu un échange de texto où on commençait à être un peu arrogant, puis elle a fait « appelons-nous parce que il n'y a rien de bon qui va sortir de cet échange-là, tu sais.
Mm.
Moi, j'aurais pas eu le réflexe de dire, quoi? Ah, c'est mon seul sujet, j'aurais fait mes affaires, je m'en aurais foutu, tu sais.
Ouais.
Cette fille, je pense que la réussite de notre séparation, malgré chacun nos défauts, je lui dois beaucoup à elle parce que je n'ai pas cette maturité-là.
Okay.
Et lorsque c'est, là, moi, j'ai revécu la même chose. Léa, elle est partie. Elle a rencontré quelqu'un d'autre après. Elle est en couple aujourd'hui avec ce garçon-là. C'est carrément ce que j'ai fait à Caroline, tu sais.
Mm.
Et l'enfant avait 3 ans. T'sais, moi, c'est vraiment le karma m'a refait ce que j'ai fait, tu sais.
Mm.
Et je me rappelle être fâché, pleurer, j'en veux y arracher la tête tellement que je lui en veux de plus être amoureuse, puis que pourtant on a traversé tout ensemble. Pis comment tu peux me faire ça? Puis ça a duré, honnêtement, même pas une semaine de frustration. Il fallait vendre la maison, il fallait tout. Puis c'est Caroline qui est venue m'aider, tu sais.
Mm.
Elle est venue avec son chum à la maison parce que Xavier pleurait, puis il avait de la peine, puis je me séparais, puis Léa, c'était comme sa mère. Il connaît que 3 ans. Et je m'étais excusé à Caro cette fois-là. Je lui ai dit, je m'excuse. Je savais pas que ça faisait mal comme ça, genre se faire laisser là, quand tu t'en attends pas. Tu avais dit, je te l'aurais jamais souhaité. Elle m'a dit, Jo, ça m'a pris 2-3 ans, là, moi, de te regarder à être heureux là, avec quelqu'un d'autre. Là. Mais tout le long, je me répétais la phrase, regarde comment ton enfant est heureux. Lisa, il y avait tellement du fun avec Léa. C'était sa belle-mère. C'était, il était toujours assis dessus. Il avait 3 ans. C'est elle qui racontait l'histoire, j'arrivais, puis il me disait, non, je veux que ce soit Léa, tu sais.
Mm, ouais.
Elle lui donnait son bain, j'étais parti en tournée, elle faisait ses devoirs avec lui, tu sais. Et Caro disait, tu tasses ta jalousie puis ton orgueil dans une séparation.
Mm.
Parce que pose-toi tout le temps la question, est-ce que mon enfant est heureux?
Ça devient tellement nos priorités. Nos enfants deviennent...
Pas tout le monde, environ. Vraiment pas. Mon sujet hier à la radio, c'était, c'est quoi les conneries que t'as vues père et mère faire, okay, de séparer? Les appels qu'on a eus, là, il y a une fille qui avait le trémolo dans la voix qui disait, s'il vous plaît, moi, ça fait 40 ans que m'avait scrap à cause de mes parents parce que tu dis là à ta mère, je serais pas là, mon mariage à ta sœur, puis qu'elle mange la merde de son nouveau chum, puis c'est comme... Tu sais, cette génération-là des années 80, là, les enfants du divorce des années 80, ils l'ont pas aussi beau que les générations aujourd'hui, là.
Mm-hmm.
Fait que,
non, ça, c'est vrai.
Ceux qui ça, nous écoutent en ce moment, tu viens de te séparer, là, prends ta douleur, hein, braille-la dans ton oreiller, écris-la, donne des coups de poing dans ton matelas quand t'es tout seul, crie dans la forêt. Quand t'arrives devant tes enfants, ne leur fais pas porter le fardeau de ta douleur et de l'échec de ton couple.
Ouais.
Fais une réussite avec ça. Même moi, des fois, ça m'arrive de chialer puis que je réalise que, ah, je viens de dire ça. Et c'est Caro, il m'a amené qui, de sa grandeur, je l'appelle, dis, OK, je vais m'emporter Xavier, je suis pas dans le motadine de trafic de tunnel de marbre, puis là, tu sais, je suis comme un peu fâché, je viens de me séparer, puis. Elle dit, OK, ben, c'est pas grave, là. Non, faut juste que je me grouille à retourner à Saint-Cyr, faut que j'aille voir l'autre, esti, puis faut que j'aille porter Jules, puis là, c'est pas correct, là. Tu sais, je me mets à chicaner.
Ouais, ouais.
Mais fait, je vais raccrocher, faut absolument que je l'accroche. Je dis, OK, bye. Et j'arrive. Les enfants sortent de l'auto, ils vont partir courir voir le chien à Xav, puis à Paul, puis à Caro. Je peux te parler, oui. Je ne veux plus jamais que tu parles comme ça.
Devant lui. Mm.
Devant Xa et Jim, ils n'ont pas à entendre cette frustration-là.
Non, tellement. Ouais.
Même que je suis parti à pleurer, je dis, qu'est-ce que je dois, jusqu'à gros, là? Elle dit, broye chez vous. Tu peux pleurer devant les enfants, leur dire, ça fait mal une séparation, ça va juste. Mais ne pèle pas ta frustration dans les autres. Mm. Je fais, t'as juste raison. T'as juste raison.
Absolument. Puis j'en avais parlé aussi avec Marie-Lou parce que moi aussi, mes parents se sont divorcés tôt. Puis, tu sais, autant que mon père, des fois, pouvait dire des choses contre ma mère, puis ma mère pouvait dire des choses contre mon père, puis que, tu sais, en bout de ligne, c'est. Tu sais, je suis 50% ma mère, 50% mon père, donc ça vient m'atteindre moi aussi. Tu sais, si elle critique sa personnalité, tu sais, ou name it, là, n'importe quoi, là, mais c'est parce que si moi, je me dis, hey, ben moi aussi, je suis comme ça, ah, ben c'est pas bon. Fait que, tu sais, c'est comme. Tu sais, ça vient vraiment t'atteindre plus qu'on pense, tu sais. Faire attention à ça. Là, on est allé dans le sujet de séparation avant même. Mais bref, si on retourne, là, si on recule un petit peu là, sur la grossesse, donc là, vous êtes quand même passé à travers ça ensemble, tu sais, t'étais.
Oui.
Let's go.
Je me sentais inutile. La vérité, c'est ça. Je trouve qu'en 2008, c'était il y a 14 ans, 15 ans, je trouve que le père n'était pas encore assez inclus dans la grossesse. Oui, ce n'est pas moi qui porte le bébé. Je n'ai pas à subir tous les changements hormonaux qui viennent avec. Par contre, j'accompagne quelqu'un qui le vit. Et je me rappelle me pointer à la librairie pendant que Caro cherche des livres sur la maternité. On adore lire les deux. Et on se promène dans les allées. Et là, on arrive sur naissance. Et là, on se met à regarder. Et ce n'est que des livres qui s'adressent à la mère, en 2008, là, bien entendu.
Ouais.
Et une moment donné, je vais voir la femme de la librairie. Puis je dis, excuse-moi, y a-tu des livres sur la paternité? Tu sais, je veux dire, elle dit, ah oui, j'en ai un. Et elle me le donne. Et c'est genre des mardes de construire une cabane dans un arbre, d'être un brin d'herbe, être le coach d'hockey. Tu fais, mais Chris...
C'est pas ça que j'ai besoin de savoir.
Pense dans son ventre, de comment moi je peux. Et là, ça disait, votre femme se sent moins désirée ces temps-ci. Achetez-lui des fleurs et du chocolat, puis faites-lui l'amour encore. Tu fais, Chris, j'ai pas besoin de me faire dire ça. J'ai besoin de me faire expliquer ce qui se passe dans le fœtus.
Ouais.
Tu sais, fait que là, je prenais les livres de la mère, puis c'était tout au féminin, puis j'apprenais là-dedans, genre, comment mon bébé évoluait dans son ventre. Si c'était normal qu'il y ait des pertes de.
Ouais.
L'ampleur. des hausses et des baisses de libido, c'est tous des trucs qu'on t'apprend pas. Et même quand t'arrives au cours prénataux, t'es là, est-ce en pied de bas dans un centre communautaire, assis sur des chaises d'orange en plastoche. Tu te fais dire par une madame que le père sert à rien, quasiment, là, c'est quasiment rendu ça, les cours, là. Puis c'est comme, madame, dites à votre chum de vous masser le bas du dos, hein. Tu fais comme, arrêtez de nous prendre pour des épais et de nous parler comme vous parlez à ma femme enceinte.
Ouais.
Et là,
on fait ça ensemble, tu sais. Puis même en anglais, j'ai toujours le. Tu sais, ils disent we are pregnant.
Ouais, ouais.
En France, ici, là, on dit pas ça. Tu sais, c'est tout le temps.
J'ai entendu un gars l'autre fois le dire. Okay. J'ai eu le réflexe de rire. Puis après ça, je me dis, hey, ferme ta gueule parce que.
Ouais.
le livre Fiston est né. Parce que, à la base, j'écrivais un livre pour le père. Puis à chaque fois que j'écrivais, puis je me suis rendu à 150 pages d'écrites, j'ai réalisé que c'était toujours tu diras à ton fils que. Tu diras à ton fils que. Fait que moi, j'ai juste enlevé comme l'interlocuteur, c'est comme le pont entre les deux, là, tu sais, c'est l'interlocuteur de trop, puis j'ai écrit un livre qui s'appelait Fiston, puis de là est née la série télé, la série web, où je parlais à mon fils, mais à la toute base, je trouvais qu'il manquait de livres sur la paternité. Tout le long de la grossesse, je me suis senti inutile, je me suis senti ridicule, je me suis senti tassé rapidement. Chaque fois que t'arrives dans un cours prénataux, on parle comme si c'était un épée qu'elle allait pas être capable de changer une couche. Là, j'en parle à d'autres pères, puis pour eux, ils voulaient même plus aller au cours prénataux parce que j'ai juste l'air d'un épée.
Mais c'était-tu différent avec Léa, justement, à la grossesse de la vie, qui était plus récent?
J'ai dit, écoute, si toi, tu vas aller faire les cours prénataux, je vais y aller avec toi. Hey, non, pour vrai, non. Ça me parle pas de faire ça. Je pense que juste lire va être correct. J'ai abordé la grossesse d'une autre façon et je pense que j'avais tellement confiance en moi pour la deuxième grossesse que peut-être, après le dire par elle-même ou pas, si je l'ai fait, je ne vais pas parler pour elle, mais je pense que j'ai indirectement amené une grande confiance dans le « been there, done that ». Tu sais, de pouvoir faire hey, « écoute, c'est normal, ça », puis elle lisait beaucoup aussi, là, c'est quelqu'un qui lit énormément.
Mais je comprends que tu avais de l'expérience.
Oui, fait que je ne sais plus avec des crampes dans le bas du ventre, c'est normal, tes muscles sont en train de tout se tasser pour faire place. C'est comme... Tu sais, parce que tu as lu, tu sais, tu t'es informé. Et dernièrement, Miguel Gouin, qui fait le balado avec moi sur la paternité, me disait que lui, il a un enfant de 2 ans, je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de livres sur la paternité. Ça a vraiment évolué pour eux parce que j'arrive à la librairie, il y en avait plein. Bon, mais il était temps, tu sais, ça a pris quoi, 13, 14 ans, à chialer partout qu'il n'y en avait pas.
Ouais. Mais en même temps, ça revient au fait que, tu sais, dans les à d'autres époques, c'était pas ça, le modèle familial, tu sais, ça n'incluait pas tant les parents. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, les choses changent tranquillement. Là, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources, beaucoup, de plus en plus, là, du moins, là, je trouve qu'il y a quand même un retour, un équilibre, si on veut, quand même, là, pour inclure les papas. Puis...
Mais encore aujourd'hui, une toilette sur deux où je vais, il n'y a pas de table à langer.
Ah, c'est vrai, hein, dans les toilettes pour garçons. Hein? OK, c'est vrai, ça, c'est un bon point.
Pourquoi tu ne changes pas à couche? Je me disais bien, tu le changes haut.
Ouais, ouais, ouais. C'est un bon point.
T'sais, exactement, c'est comme, ben, prendre un petit abonné dans les toilettes, j'en ai pas. Là, je dirais que c'est de plus en plus rare, mais c'est quelque chose auquel j'arrive, là, n'importe où, genre, centre d'achat. Les centres d'achat, il y en a pas mal tout le temps à cette heure, mais restaurant, whatever. Tu arrives dans la salle de bain, tu sais, nous, on n'a pas de table à langer. C'est absurde, là. Moi, je suis monoparental, Jules, il fallait que j'y change de la couche. Là.
Tu faisais quoi?
Là, tu changes ton bébé à côté du lavabo, puis là, tu te fais dégager par des boomers, puis tu fais hey, excuse-moi de m'occuper de mon enfant.
Ouais, c'est ça.
Fait, là, toi, là. De la marde de bébé, puis il faut que je le change, puis on n'a pas de table à langer.
On dirait que je t'imagine tellement, là, puis un peu à bout, puis genre stressé.
Mais je suis vraiment connu pour être un gros calinour, je pense, là, médiatiquement, mais t'as envie, j'étais un hostie de bougonneur.
Ah ouais?
Pas chialer à haute voix, là. Tu sais, je pense que ça a gossé beaucoup mes ex, là. Mais je me gênerais pas en sortant d'une toilette de faire, hey, excuse, tu travailles ici. Oui, là, je fais ma Karen, là, tu sais. Je dirais au manager, au propriétaire, whatever. Ça serait cool qu'on puisse changer nos bébés.
Ouais.
Toilette.
Ouais.
Ça vient de coûter à peu près 88 piastres de broche, là, d'œuf et de bacon, là. Mon bébé, il faut qu'il fasse caca. Comme tous ces gens-là qui vont chier après un brunch. Là, on est de le déposer, tu sais. Mais je pense que tant que tu chiales pas, tu feras rien avancer.
Non, non, c'est vrai. T'as-tu senti que chialer, ça l'a changé quelque chose? T'as-tu vu qu'un résultat...
Pour vrai, je pense que dans les 15 dernières années, j'ai tellement chialé sur des trucs pour les pères. Il y a vraiment une cause qui m'a tenu à cœur de faire. Tu sais, nous, moi, j'ai toujours voulu l'égalité des sexes quand je regardais ma mère. Que lorsque moi, je veux m'impliquer, puis qu'après ça, on me laisse pas, entre guillemets, mais comment tu veux atteindre cette égalité-là des sexes? Ma façon à moi de prôner un féminisme, de prôner une équité, c'est en étant impliqué avec mes enfants, parce que c'est ce que je contrôle. Je peux contrôler de dire aussi à la job de faire hey, « je trouve ça absurde que tel artiste soit pas payé le même salaire que moi, tu sais. » Avec des co-animatrices, ben, quand je peux, je vais chialer. Je sais que je suis reconnu pour être un gros bébé gâté ou un gros bébé qui chiale. Mais je pense que j'ai assez chialé dans les dernières années que j'espère que c'était pas en vain.
Ouais.
J'ai beaucoup de pères qui m'écrivent. Tu sais, pendant la pandémie, là, je mettais plein de vidéos de moi qui s'amusait avec mes enfants parce que je me disais comment on peut régler cette violence-là. Je pense que les hommes sont très colériques, là, de manière après un certain temps, là, durant la pandémie. Là, c'était comme. Et je me disais, ma façon à moi, là, ça va être de faire des petites vidéos sympathiques. Là,
détendre l'atmosphère.
Et qui amène un peu de douceur sur ces réseaux sociaux-là de marde. Tout le monde faisait juste de faire regarde, va jouer dehors avec les kids, man. C'est tough. Là, moi aussi, je suis en dépression. Ça va pas bien. On a hâte que la COVID arrête. Fait que j'espère. J'en avais des fois des messages de gars qui me disaient, hey man, j'ai réalisé en te regardant, Chris, t'en fais des activités avec tes enfants, puis tu fais, ben, 2-3 fois semaine, pas plus que ça. Et je les mets sur les réseaux sociaux, fait que j'ai tout le temps l'air de faire des trucs. Mais si toi, ça t'a inspiré dimanche passé, quand même si tu faisais pas beau, de peut-être aller faire un peu de hike avec tes enfants.
T'auras fait une
moins.
Ouais. Ça me fait penser, toi qui chiales, puis tu sais, féminisme et tout ça, c'est quoi ton opinion, tu sais, le concept là, de double standards? Homme-femme, mais dans la parentalité, tu sais, que mettons, là, toi, là, tu changeais la couche de ton fils, là, puis OK, là, c'était des boomers qui peut-être te regardaient croche, mais mettons que ça aurait pu être l'inverse aussi, puis de faire comme, oh, c'est donc bien un beau papa, tu sais, il change la couche de son fils, ou, mais que versus une mère.
J'ai de la misère à y croire, à ce double standard-là.
Ah, ouais, tu l'as pas vécu.
J'ai pas mal plus dévisagé quand je suis au cinéma ou au McDo avec mes enfants comme étant, hey, il sait pas s'en occuper, il faut qu'il fasse une activité, genre, il vient les bourrer de sucre, il vient les bourrer de McDo.
Ah ouais?
Tu sais, l'autre fois, j'ai eu un bon échange avec, mettons, musclé avec ma partenaire de radio, Joanie, qui disait, ouais, mais vous pouvez bénéficier de ça. Puis tu fais, ben, ça, là, c'est, demande au papa pour de vrai. Pas l'opinion de ce que des dames vont leur dire, des mamans vont leur dire. Demande à des papas s'ils se sentent. Je pense que c'est un mythe qui date de 1996, tu sais.
Pense?
Ah oui. Ah oui, je suis persuadé. Ah ouais? Je suis monoparental, je fais des activités avec mes enfants. Et je te dirais que tout dépendant, c'est quoi l'activité? C'est tout le temps, ah, on dirait le père monoparental qui sait pas quoi faire.
Qui rush.
qui rushent. Ah, ils les emmènent au McDo. Fait que, je les emmène au McDo une fois par deux mois.
Oui, mais non, finalement, eux dans leur tête.
Des gens au McDo qui vont dévisager dans c'est un papa McDo, là, il n'est pas capable de. C'est ça,
c'est
deux, lui, hein, ça paraît.
Oh.
Moi, je trouve que le double standard, il est même à l'inverse par moment. Tu sais, mettons, pourquoi est-ce que quand j'arrive à l'hôpital pour mon gars pour avoir été là quasiment dernièrement, c'est comme si j'existais pas des fois dans le bureau, puis c'est comme, bon, madame, vous avez les dossiers, vous avez les papiers, les cartes? Ben non, c'est papa qui les a. Là, tu fais, jamais on va me demander à moi.
OK.
C'est pareil comme, mettons, l'addition dans un restaurant, là. Là, ça commence à être offert aux deux. Et pendant des années, c'était toujours offert aux garçons dans une date, là.
Ouais, ouais.
Une seule facture, tu sais, on te l'imposait que tu devais payer pour la dame, tu sais.
Mm, ouais.
Mais je pense que, parentalement parlant, en ce moment, t'arrives à l'aéroport, pis c'est comme, les passeports ont automatiquement, la dame va se retourner vers la mère, parce que clairement, j'avais fait tes passeports et les papiers. Parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Mais c'est fait que des fois, t'arrives, là, pis c'est comme, oui, c'est moi qui les a.
Ouais. Ouais.
J'ai tous les passeports, les billets d'avion, j'ai tout organisé, c'est moi qui ai tout planifié, là.
Ouais, ouais.
C'est moi qui ai les médicaments dans notre sac à dos, là.
Ouais.
Je sais que c'est une minorité. Je sais que c'est pas la majorité, mais je crois qu'on va l'atteindre d'ici 30-40 ans. Ouais.
Mais c'est vrai que
le standard est en train de changer.
Mais c'est vrai ce que t'amènes, que c'est peut-être l'opinion des femmes, tu sais, ce qu'elles interprètent, ce que nous interprétons, quand, tu sais, parce que, tu sais, personnellement, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir cette opinion-là, tu sais, que mon chum soit parti au parc avec les enfants, tu sais, au lieu que ça soit moi, tu sais, puis je sais pas, tu sais, j'ai jamais assisté à ça, tu sais,
ouais.
de ce double standard-là, j'ai jamais. Mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. T'sais. Fait que je me suis dit peut-être que toi aussi ça t'est arrivé ou mais non.
Là où ça va changer, et je peux te garantir que ça fonctionne, c'est pas avec les dames d'un certain âge. C'est avec les filles de 35 ans quand tu t'occupes de tes enfants au père. En cours ou pas, ils vont faire des sourires. Eux autres trouvent ça sexe, un père qui s'occupe de ses kids.
Mm.
Parce qu'ils ont toujours pensé qu'à la maison, le père s'occupe pas de ses kids, mais parce qu'il s'en occupe différemment, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai fait de quoi à la radio la semaine dernière, je crois. Ouais. Une couple de jours. Sur le fait que je suis tanné qu'on voit les papas stupides partout, tu sais.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans les pubs, toujours le père a mal booké le voyage. Le père est pas capable de changer une couche.
Mm.
Le père est niaiseux. Le père est juste bon pour appeler des compagnies d'assurance quand il y a un dégât d'eau.
Je comprends, ouais.
Et dans les films...
Le père, il oublie tout.
Le père niaiseux.
Mm.
Tu sais, puis j'ai participé à ça. Mm. J'ai participé à ça. J'ai fait une série qui s'appelle Papa, où je faisais un père nouvellement séparé qui n'accepte pas la séparation. Puis exagérément, on a ri du gars un peu maladroit qui essaie de tout bien faire avec son enfant, puis ça fonctionne pas. Mm. J'ai pelleté du charbon dans cette cheminée-là, tu sais.
Mm-hmm.
Par contre, moi, mon travail dans la vie, c'est faire de l'humour. Quand je vois une entreprise essayer de me vendre des pneus de char... qui me prend pour un esti papa niaiseux qui n'est pas capable, ou un papa pas capable de s'occuper de ses enfants, je suis tanné. Et quand j'entends les « ouais, mais les pères s'occupent pas de leurs enfants, ouais, mais les pères s'occupent pas de leurs enfants », je suis « Chris, où ça? » À part peut-être dans le fin fond d'une région, mais ça aussi, je pense que c'est encore quelque chose qu'on a cultivé. Mais quand on prend le temps de s'arrêter et qu'on fait « OK, mettons, je vais sortir 10 pères autour de moi. » Lequel s'occupe des enfants qui ne sait pas versus les attentes de sa copine, qui s'occupe des enfants. Moi, j'ai fait le tour dans mon studio, puis j'ai regardé Frank, mon metteur en onde. Il y a 5 enfants, il est monoparental, il a une semaine sur deux. Le gars cuisine le dimanche, man, tous ses repas de la semaine, il fait des lunchs d'avance, il coach 2 des équipes, il apprend à conduire à sa fille, il est ultra présent. Des fois, il se confie, là, ah, je fais un peu de peine, je vais les emmener en vacances à telle place, mais il y a un des 5 qui aime pas ça, puis il me parle de sa parentalité constamment.
Ouais.
Pat Marcellet, 3 enfants impliqués comme ça n'a pas de sens. C'est lui qui cuisine à la maison. C'est lui qui fait les conversations importantes avec ses enfants sur tous les sujets. Tout ce qui est finance, c'est lui qui apprend ses enfants. Il est une bonne oreille pour ses kids. Il les encourage constamment. Il va se lever à 5 heures le matin. Il va emmener toute l'équipe de volleyball à son gars à l'autre bout de Sherbrooke. Il ramène, il cuisine pour eux autres. Puis il est fin comme ça n'a pas de sens. Sa parentalité lui tient tellement à cœur. Après ça, l'autre modèle que j'ai autour de la table, c'est Alex, notre producteur. Qui fait ses meetings Zoom tous les matins avec son bébé dans ses bras parce que sa blonde part travailler un peu plus tôt. Puis elle pourrait le dropper à la garderie, mais il a décidé d'être 1h30 de plus le matin avec son bébé. Même s'il travaille pour passer plus de temps avec seul one-on-one avec son bébé. J'ai mon patron, c'est la même chose. Il nous parle constamment de ses enfants. Il est impliqué, ça n'a aucun sens. Mes deux chums, j'en ai un en construction, c'était à 4h le matin. Il fait le lavage chez eux, il cuisine. Et je suis comme, mais qui? Ils sont rendus où les pères qui ne s'impliquent pas, tu sais?
Mais il y en a, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, tu sais, j'en lis, là, des mamans qui s'expriment, puis que, tu sais, c'est pas leur réalité pantoute, puis que, justement, ils sont pris entre, hey, comment que je fais réaliser à le père de mes enfants que crime, il doit assumer ses responsabilités parentales, tu sais, je veux dire, c'est pas. T'sais, t'aides pas la mère. Tu dis souvent, ah oh, ouais, t'as vu, il a l'air de t'aider beaucoup. Non, non. On peut-tu changer le narratif? Là, ça n'a pas rapport. Là. Tu dis pas, je t'aide.
Il s'occupe de sa famille, tout simplement.
Exactement. Ouais. T'sais, ben, c'est ça. Mais des fois, puis là, t'sais, la mère qui t'en a parlé, dans le fond, c'est normal ce qu'ils font. T'sais, je sais pas comment dire. C'est la base, c'est ça. T'sais, moi, mon chum qui le matin, là, parce que moi, j'allaite encore. La nuit, mon bébé, il se réveille encore 4 fois, peut-être. Là, t'sais, il y a 8 mois. Mais tu sais, le matin, maintenant, mon chum, il met son cadran, son alarme à 6h. Parce que Lolo, Laurier, il se réveille à 6. Fait que lui, à 6h, il se réveille, il prend Laurier. Moi, je reste au lit. Tu sais, je dors peut-être 1 heure ou 2 de plus.
Ouais.
Mais oui, je suis chanceuse. Je le cache pas. Tu sais, on fait vraiment une belle équipe. Mais
ça reste à la base sa job.
Ben oui, Colin, lui, il dort toute la nuit. Là, je veux dire, c'est moi qui se réveille. Tu sais, fait qu'en même temps, tu trouves un certain. Trouve une façon que ça fonctionne, tout ça, là, tu sais, mais je vais pas commencer à y lancer des fleurs parce qu'il a mis son cadran à 6 heures, tu sais.
Pas du tout. Mm-hmm. Mais là où je vais, mettons, là où je mets un bémol, c'est, mettons, tu sais, j'entends beaucoup comme c'est facile, faire, ouais, mon chum fait pas le lavage, mon chum fait pas ci, tu sais, ouais, mais mon chum, c'était à 4 heures le matin, il travaille dans la maçonnerie, il arrive à 4 heures, il a fait un 12 heures sa construction,
c'est
il arrive, il t'aide avec le souper parce qu'il brûle les têtes, mais il sait que c'est important.
Mm.
C'est sûr que c'est à 7h30. Après le bain du petit, il s'endort avec le petit sur le divan. Je suis pas qu'il fait ton chum rôle sur le divan. Tu comprends?
Ouais, je comprends.
C'est
ouais.
Facile d'accuser les garçons en ce moment.
Ouais.
Alors qu'on est dans une période de changement. Je parlais avec Anthony, un gars du travail qui a 22 ans. Il me disait, je suis tellement hot, genre que vous me donnez le goût d'avoir des enfants.
Ouais.
Genre de vous voir vous impliquer. Mais il dit, il faut que je trouve mon équilibre entre, tu sais, je veux une carrière. Je veux que ma femme puisse avoir une carrière. Je pense que le garçon, faut arrêter de l'accuser. Il faut comprendre
une
période de transition, d'apprentissage, et que ce n'est pas en rabaissant ce qu'il fait de pas correct. Parce que le peu de gars, parce que on a fait un sondage qui était sorti dans la presse avec la Semaine québécoise de la paternité. Oui, tu sais, on parlait de la charge mentale qui est crissement pas équitable en ce moment au Québec.
Mm-hmm.
C'est vraiment dans une proportion où quelque chose comme, je vais paraphraser, mais ça, c'était 66% des femmes n'étaient pas satisfaites de la part de l'homme sur leur toit, tu sais.
Ouais.
Et nous, on questionnait dans du débat, dans des conversations de table, est-ce que c'est les attentes qui sont démesurées? Parce que vous êtes habitué d'avoir le pourvoyeur à la maison, en plus d'un père impliqué. Il va falloir trouver un juste équilibre, mais il faut l'expliquer à JF, 24 ans, qui n'a pas eu de modèle de père chez eux. Que c'est pas en disant, est-ce que t'es niaiseux de pas faire la vaisselle? C'est, hey chum, il faudrait que t'as fasses, point final.
Ouais. Ouais.
Parce qu'elle aussi est brûlée, man. Parce que oui, tu reviens à 10 heures sans construction, mais même rester à la maison, c'est fucking exigeant.
Ouais, vraiment.
Faut pas le pointer du doigt en l'accusant, parce que
je comprends.
Des trucs comme mère ordinaire sur Internet qui passent.
Je la suis pas, elle.
Ou tu fais bien, tu sais. Mais tu sais, de faire comme appeler du linge, je dis, mais si on sait bien, mon chum, il va pas le linge. Mais ton chum, il est où en ce moment? Il est pas en train de se gratter à la poche comme dans les années 50, tu le tiens à côté de toi, là.
Ouais.
Ton chum est parti travailler.
Ouais, puis des fois je trouve que c'est la mère que la femme est programmée à cause d'encore une fois, tu sais, toutes les anciennes générations, puis comme à un moment donné, c'est le travail de la femme aussi de dire "Hey, regarde, il y a des choses qui m'appartiennent pas ou tu sais, il y a des choses que partageons-la cette charge mentale là, tu sais. Il y a une façon de l'expliquer, tu sais, juste d'habiller mon fils là, c'est je veux dire, des fois je l'habille pas, tu sais, puis je laisse ça entre les mains de mon chum, je dis ah, il faut habiller Emile, tu sais, puis là il vient me voir, il est comme "Ah, sais-tu il fait combien dehors?" Puis il est comme "Est-ce que tu veux l'habiller d'une certaine façon?" Puis je suis comme non. Je suis comme, non. Garde ton accès à ton téléphone.
C'est ça.
T'as ton téléphone, t'es capable d'aller regarder, il fait combien dehors. T'as accès à tous ces vêtements. Tu sais, je veux dire, des fois, mais encore là, tu sais, oui, des fois, c'est frustrant, là. Tu sais, je suis comme crime. T'es capable de penser à ça, là. Tu sais, c'est pas à moi de dire quoi lui mettre comme pantalon, tu sais, mais, tu sais, je vois que c'est un travail quand même. Tu sais, c'est moi qui, souvent, ben, mettons, peut-être que je lui dis, ah, mais c'est pas beau, ça, ce que t'as choisi. Ou, ah, coudonc, tu y mets encore ces pantalons-là. Tu sais, il y a un travail que moi-même, je dois faire aussi. Tu sais, que lui, il va être juste encouragé, tu sais, à faire comme lui, ça y tente de faire, finalement.
Ben, tu sais, c'est beau ce que tu viens de dire parce que, il y a deux choses que j'ai vraiment aimées. Il y en a un, c'est une année, pendant la semaine québécoise de la paternité, j'avais reçu Bianca Gervais pour parler de charge mentale, tu sais. Puis comment elle et Seb fonctionnaient, alors qu'ils travaillaient beaucoup avec l'émission Format familial à l'époque. Ouais. Eux fonctionnaient, c'était un autre couple qui faisait ça, les post-it sur le frigo, où il y avait maintenant les tâches en paire. Je trouve que c'est tellement une bonne idée, là.
Ouais.
Okay, lavage du petit, lavage des trucs de sport, mettons, tu sais. Parce que quand ton enfant, quand Laurier, et comment s'appelle ton autre enfant?
Émile.
Quand Émile et Laurier vont commencer à jouer au hockey, au soccer, au baseball, à faire du karaté, à rester dans des activités. Tu vas voir, là, le lavage, là, ça arrête juste fucking jamais. Là. Moi, mes gars font tout plein de sports. Là. Puis la fin de semaine, on en fait. Fait que, bref. Et eux, ils fonctionnaient avec, mettons, les post-it. C'est à gauche, c'est tout moi. À droite, c'est toi. Fait quand tu arrives devant le frigo et tu fais OK, ville de vaisselle, je vais le faire. Tu te rends compte que tu as 7 colonnes de ton côté, tu as 7 colonnes du côté de ta femme, puis tu en as juste 2 du tien.
Mm.
Ah, ben, chum, elle a travaillé 40 heures aussi cette semaine-là. Mm. Elle va travailler, puis fait que, tu sais, il faut trouver des outils pour s'aider.
Ouais. Puis de visuel, comme ça, ça peut aider aussi, tu sais.
C'est super bon, là, tu mets un tape sur le divan, sur ton frigo, ou juste un carré que tu coches, tu sais.
Ouais.
Et quand tu fais le souper le soir, tu peux l'effacer, puis là, ben, commence le lendemain. Mais juste le temps qu'on comprenne, tu sais, comme moi, personnellement.
Ben, c'est ça, j'allais te poser la question, parce que là, toi, t'es monoparental, tu sais, t'as tes enfants, je sais pas comment que la garde partagée fonctionne exactement, mais t'as quand même une bonne partie de cette charge mentale-là aussi, ça va de soi?
Je l'ai dit justement en entrevue il n'y a pas long, pour ceux qui l'ont entendu, je me répète, j'ai appris ce qu'était la vraie charge mentale après 3 mois de pandémie.
OK.
Parce que moi, je suis un gars qui est workaholic, je suis tout le temps dans 1000 projets en même temps. Je travaillais 70 heures semaine, puis je m'occupais de tout le terrain à la maison, gazon, tailler les haies, whatever, tout ce qui est très cliché genré, là.
Mm-hmm. Ouais.
Dans la maison, je m'occupais, mettons, d'un repas sur 5. La nuit, vu que je me levais à 3h30, ben c'est Léa qui se levait pour allaiter parce que bon, elle voulait pas tirer tout de suite son lait. Fait que j'avais dit, écoute, si tu peux pas tirer ton lait, je peux pas prendre le relais la nuit quand je me lève. Puis mes heures de lever n'étaient pas les bonnes pour le bébé. Tu sais, mettons, je me levais à 3h30, mais tu te réveillais à 4h30, fait qu'on le devançait d'une heure. Fait que, bref, les nuits pendant 1 an et demi, c'est elle qui les a bavées, tu sais. Et moi, dans ma tête, c'était, hey, je travaille 70 heures semaine. Je me lève à 3h30 le matin. Je ramène de l'eau au moulin parce que je suis seul salaire en ce moment. J'ai la pression financière. Donc, je prenais pour acquis tout ce qu'elle faisait.
Mm.
Et quand la pandémie est arrivée et que là, tu es sous le même toit et que là, fait, hey, tu peux-tu aller partir la brasser en bas? Puis tu fais comme, oui. Ben, j'ai fait du lavage hier. Et comme, oui, mais exact, jouer au hockey hier. Et ces combines, il y en a besoin pour demain? T'sais, oui, excellent. Il n'y a pas deux paires de combines? Ben, ça ne fait plus les autres, Joe.
Mm.
Ah. OK. Là, Monet, j'ai réalisé tout ce qu'elle prenait dans sa cour, alors que je pensais que c'était 50-50.
Mm-hmm.
C'est facile de penser que c'est 50-50. La journée que tu tasses les attentes l'un de l'autre et que tu regardes vraiment le board, comment il est dessiné chez toi, tu réalises que tu ne te donnes pas autant que tu pensais. Et je parle pour beaucoup de garçons. Moi, honnêtement, ça l'a effrité mon couple et plus jamais ça va m'arriver. J'ai comme appris de ça. En ce moment, je gère 100% de ma charge mentale chez nous parce que on a pas rentré avec 2 enfants. Il y en a un, j'ai la garde 50-50, puis l'autre, c'est week-end et congé férié, tu sais.
Ton ado, ça.
Mon ado. Mais quand tu t'occupes de 3 repas par jour, 7 jours sur 7, du lavage de tous tes petits sportifs, de l'école, des devoirs, de la natation, du hockey, du baseball, du soccer, des vacances.
En plus de ton travail.
En plus de mon travail de workaholic, où je travaille 60 heures semaine, tu réalises la part de quelqu'un d'autre dans ta vie. Là, je suis bien rodé. Ça fait bientôt 2 ans. Non, ça fait 2 ans et demi que je suis séparé. Et j'ai eu une copine pendant 1 an là-dedans. Et que des fois, j'avais l'impression que ça ralentissait mon rythme parce que je suis habitué, là. Genre, moi, vider la vaisselle, je fais pas ça en jasant, là. On a trop rien, je veux dire, là.
Ouais.
J'arrive, c'est comme, tu sais, tantôt, je sais que là, il est 3h10. Je vais aller chercher à la garderie, je reviens. Ah, mais pas aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'elle me rend service, mais je travaille tantôt. Mais tu sais, j'ai ma routine d'aller chercher à la garderie, revenir, vider le lave-vaisselle. Il joue pendant ce temps-là, il fait un casse-tête à la table, il fait whatever. Et pendant mes cuissons de bouffe, je vais voir ce dessin, je le light un peu. Puis je fais OK, là, tu vas m'aider à couper les carottes. Puis j'essaie de l'inclure dans mon repas, parce que sinon, on passe pas de temps ensemble. Pendant ce temps-là, je vais me brasser dans la laveuse. Tu sais, comme ça, tu reviens, puis tu ramasses toutes tes jouets en arrière de lui. Je lui apprends à tout serrer ses jouets. Ils sont super autonomes, mes gars. parfait, on mange, excellent. Tout de suite, la douche, pendant la douche, je vais vider la brassée dans la sécheuse. Je mets tout ce qui est propre dans le panier. Puis j'essaie d'en plier la moitié, mettons, puis le restant, je le laisse là parce que j'ai une femme de ménage qui vient une fois par deux semaines parce que sinon, j'y arriverais pas, tu sais. Mm. Là, ben une fois par deux semaines, elle vient, puis j'ai le droit de laisser un panier de lavage à plier. C'est, okay. C'est comme dans mon deal. Je donne un 50 de plus, puis je laisse okay. un gros panier. Fait que, tu sais, ça me donne un coup de main. Mais sinon, le monde réalise pas la charge mentale d'un pigiste avec un horaire instable. Là, moi, je travaille jamais aux mêmes heures.
Mm.
Fait que ma prochaine copine qui va entrer dans ma vie, pas pour le moment. Genre, on va faire comme OK, wow.
Oui. Puis en même temps, là, parce que justement, on parle d'horaire atypique, c'est comment que tu conjugues cette vie-là familiale avec ton horaire de travail? Est-ce que à chaque semaine, c'est parce que c'est ça, tu dis c'est jamais pareil. Fait qu'est-ce que quand même les mamans des enfants sont quand même réceptive, c'est à comme un peu t'accommoder selon tes disponibilités, tu sais, est-ce que tu essaies le plus possible de le dire d'avance, tu sais, qu'est-ce que ça va être ou, tu sais, ça ressemble à quoi finalement?
Le deal que j'ai avec les mamans, c'est que nos gardes sont fermes.
OK.
Mais j'accepte des contrats, maintenant, comme là, je vais bientôt animer un show télé. J'ai demandé à ce que mes dates de tournage soient quand j'ai pas mes enfants. Comme ça, je peux travailler jusqu'à 10 heures le soir, mettons 11 heures.
OK.
Si, par inadvertance, mettons, on me demande une conférence, un corpo, un soir que j'ai...
Les enfants.
Souvent, je vais demander à une des deux ex de prendre les deux. Mettons, je vais appeler Léa. Là, je suis comme, t'es-tu au café vendredi de fin d'événement? Comme, non. J'écoute, j'ai Xav et Jules à la maison. Si tu veux venir souper chez nous, genre, je peux tout cuisiner chez les Aquanagers, si tu viens souper chez nous quand tu finis ton chiffre, mais moi, j'en fais absolument que je parte le soir en spectacle ou en conférence. Ou...
Okay. Donc,
on s'arrange comme ça. On a vraiment une belle chienne. Puis là, tu vois, aujourd'hui, j'ai des textes à livrer ce soir. J'avais un deadline. J'y arrivais pas. Et c'est ma copine que j'ai eue pendant un an qui est restée ma meilleure amie, qui comprend mon rythme de vie. C'est ennuyé de Jules qui a fait, ben, je vais venir chercher Jules à la garderie. Et je vais le faire souper. Puis il vient nous rejoindre, mettons, à 7h30, 8h pour pouvoir être là pour le dodo.
Je trouve ça beau, ça. Parce que tu vois, ça montre juste qu'on s'adapte. Tu sais, on trouve des moyens. Puis, t'es bien entouré aussi. Mais, tu sais.
J'ai des decks en or. C'est surtout ça. Mais.
Puis sinon, ça serait peut-être une gardienne, non? T'sais, dans le sens qu'il y a cette possibilité-là.
Oui, j'ai la chance d'avoir un grand de 14 ans, tu sais.
Aussi, oui.
Qui peut s'occuper du plus jeune.
OK, ouais, c'est vrai, à cet âge-là.
C'est ça, à 14 ans. Là, des fois, tu sais, comme l'autre jour, la semaine de relâche, tu sais, il était ici 4 jours. Je disais, je veux bien, mais moi. Je travaille, mettons, je me suis pas pris de contrat le restant de l'après-midi, mais je finis la radio, je suis à la maison avant 2h, tu sais.
Ouais.
Fait que je me levais le matin, on brochait tout le monde ensemble, je faisais des crêpes. On mange, c'est OK, ben là, faut que je parte absolument dans la radio, Charlie Boys. Et lui, ben, il regardait le style, il gamait, il s'amusait, faisait des Legos. Il revient. On est là tout habillé, prêt à aller faire du snow. On sort dans le shop, on descend au monde, on va faire du snow, on descend de la journée, puis j'avais ça la semaine de relâche, tu sais, je suis capable de faire les deux. Et s'il y a une urgence, ben, t'appelles Léa, qui est mon ex qui habite à trois coins de rue, tu sais.
Okay.
Comme je te dis, l'affaire des ex en or, quand je dis ça, souvent, je me dis, ah, t'es vraiment chanceux. Hey, tu penses qu'on n'a pas eu des conflits, chum, tu sais?
Ouais.
Je suis parti avec une autre femme, puis après ça, elle est partie avec un autre homme. C'est sûr qu'on s'est taillé pendant un bout de temps, là, tu sais?
Mm.
Mais une manière, comme je disais tantôt, faut que tu fermes ta gueule, puis tu penses aux enfants.
Mm.
Et Léa et moi, et avec Caro aussi, la même chose. Ça donne rien d'entretenir de la haine. C'est que nos enfants, quand nos enfants font du mal, tu veux. Je veux dire, mon ex, ça vient ici, des fois, là. C'est même pas des jokes, là. Léa vient avec son copain ici. Alors qu'il y avait pas un an et demi, 2 ans, je broyais ma vie, puis je disais, il s'est pour mourir de sa main.
Mm.
Et des fois, c'est eux autres qui vont aller chercher la petite garderie un de mes jours de garde, venir ici. Et cet homme-là mange dans la cuisine.
Ouais.
J'arrive, on se fait un high five, puis c'est cool, puis c'est un verre de vin avec mon ex. Puis on appelle ça les soupers d'ex. Quand que Jules, il trouve ça difficile des fois, on fait le 5-5-2-2, pour ceux qui connaissent.
Ouais.
Mais tu sais, des fois, à la dernière journée ou l'avant-dernière, à la quatrième nuit de suite qu'il n'a pas vu sa mère, il y a juste 5 ans, il trouve ça tough, tu sais.
Ouais, je comprends.
Fait que souvent, on fait comme, j'ai de la paix, puis hey, on fait ça souper d'ex en soir parce que le petit s'ennuie beaucoup, il y a eu des invitations de dormir hier. OK.
Souper d'ex.
Fait qu'elle s'en est chez nous, puis son chum le sait, puis elle s'assoit ici, on ouvre une bouteille de vin, on lui donne son bain comme ça, on habite encore ensemble.
Mm.
Fait des jeux de société avec lui. Puis le soir, c'est elle qui me couche alors qu'elle est chez nous, c'est elle qui va lui donner le bain. Après le bain, la routine du dodo, les chansons. Les histoires, puis après ça, ben, je vais lui donner un bec, puis lui, il y a ses deux parents, ça va ils s'en parlent au bord après, dans ses trucs, puis elle fait, bon, mais alright, demain, je ramasse à la garderie, bye.
Ouais.
Mais pour faire que ça, c'est pas que je suis chanceux, c'est qu'on l'a entretenu.
C'est ça. Vous avez travaillé pour quand même, là. Ça vient pas tout seul, là. C'est sûr que non. Parce que Les émotions doivent prendre le dessus, c'est sûr, comme tu dis au départ, puis après ça, peut-être tu deviens un peu rationnel, puis tu dis que, OK, c'est pour le bien de l'enfant, nanana, mais ça doit pas...
Quand, mettons, arrive une histoire de pension ou de virement, ou de... puis là, il y a des sous d'impliqués, et là, on s'obstine sur quelque chose qu'on a vendu qui nous appartenait, puis que le lendemain, on a un suspect d'ex avec l'enfant, et que là, il est dans le bain, on commence à s'obstiner un peu à table, puis qu'on fait, hey, on se regarde, on part avec, on fait... On s'en va demain au téléphone.
Ouais, c'est ça.
Et on s'en va dans la salle de bain, puis on rit, puis on a du fun, puis on fait comme ça. Ça donne rien. Il y a une seule personne qui va écoper. Plus j'essaie de la faire chier, plus je vais faire chier l'enfant. Plus j'essaie de la faire chier, on va faire chier l'enfant.
Oui, absolument. Ben, vous êtes bon.
Il y a ça, mais il faut communiquer plus.
Ouais. Puis tu sais, quand tu dis là, que, mettons, ton plus vieux, il garde le plus jeune, est-ce que tu as l'impression des fois que c'est toi? Tu sais, quand toi, tu étais plus jeune, puis tu t'occupais?
Oui. C'est drôle que tu amènes ça parce que dernièrement, je me suis demandé est-ce que je lui en demande autant que ma mère pouvait m'en demander, tu sais. Je suis comme, ça m'a responsabilisé, ça m'a aidé. Fait que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux.
Ouais, de relativiser un peu.
Ouais. Tu sais, de faire, il faut qu'il soit mature. Il faut qu'il ait des responsabilités dans la vie. Il faut qu'il. Donc, quand il s'occupe de son frère, il fait dîner, puis il s'occupe de tout, je suis fier. Je me dis, il apprend à cuisiner. Puis, vu qu'il ne se voit pas tous les jours aussi, il y a ça. Ils sont toujours contents d'être ensemble. Donc, oui, je me vois en lui. Puis des fois, je lui dis, Moudza, je suis vraiment fier de toi parce que pour vrai, j'étais un bon grand frère, mais je t'accote pas, là, tu sais, c'est comme... ils partent ensemble en trottinette au parc, il revient, j'ai le pisse sang du genou. Tu sais, à part courir, il va toucher des plasters, j'ai pas besoin de rien dire. C'est comme...
Ouais, mais tu sais...
Je vais faire mes affaires, puis c'est comme...
Contrairement, mettons, à ce que toi, tu as vécu avec tes parents, tu sais, c'était plus le fait qu'on t'a imposé ça.
Ouais.
Un peu contre... C'est un peu contre ton gré, puis à cause du contexte familial qu'il y avait à ce moment-là. Tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est pas... Je veux dire, t'es présent, tu prends le temps, tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, tu peux pas nécessairement comparer les deux. Là.
Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça m'aide à relativiser. Ouais. Je me dis, pauvre, plein de fois, j'ai appris à cuisiner tôt, j'ai appris à gérer les crises d'enfants tôt, à écouter un enfant de 4 ans. Il y a des besoins, là, c'est pas juste des caprices. Il faut arrêter de penser, tu sais, moi, je vais casser son caractère. Wow, attends, elle va dire que tu vas casser un caractère d'enfant, là. Genre, laisse-les crier, faire péter sa coche, puis à un moment donné, essaie de comprendre d'où ça vient, tu sais.
Non, on peut pas casser.
2 ans, puis c'était des terreurs dessus, on criait, il braillait, il était, c'était tough, là. Moi, ça m'a rappelé des choses quasiment pleurant de faire, elle vient de péter une coche, elle m'a griffé le visage, OK, mais là. Puis à un moment donné, on a comme pris du recul, puis on a fait, hey, wow, wait a minute. On pense qu'on a trouvé ça tough. La pandémie, Chris, ça fait 2 ans qu'il est enfermé dans une maison. Ou pas d'année pour sociabiliser. Son grand-père a un cancer. Ses parents viennent de se séparer. Il a déménagé. Dans son déménagement, il a eu 2 nouvelles maisons parce qu'on a vendu notre ancienne maison. Puis en plus, en changeant de quartier, il fallait qu'il change de garderie. Toute sa vie vient de s'écrouler.
C'est fou, hein?
Oui. C'est le dernier à qui on a pensé dans la séparation. Des fois, on n'y a pas pensé, mais puis on faisait « Ah, ça va lui faire de la peine, mais... »
Ouais, on pense qu'ils ne réalisent pas ou qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne ressentent pas, ça. Mais... Oui.
Les éponges à cet âge-là, leur cerveau est fait pour ça.
Ouais.
Tout absorber et apprendre à diviser ce type d'émotions-là, apprendre à les gérer. Donc, c'est sûr qu'il y a une colère. Il voit du jour au lendemain son frère devenir tout mec puis de cheveux. Ses parents n'étaient plus dans la même maison.
Tellement des gros changements.
C'est beaucoup trop de gros changements. Puis on va le porter dans une nouvelle garderie avec des nouveaux amis. Après, on se demande pourquoi qu'il nous griffe la face à 3 ans et demi quand même. C'est une coche parce qu'on vient de dire non pour quelque chose. Je ne casserai pas son caractère.
Ben
je
non.
Je vais la
laisser
crier.
Il a anguille sous roche, comme on dit. Là. Ouais. Ouais.
Mais tu lis les 2 premières crises qu'il m'a pété. Je dis, hey, wow, là, puis je le mets dans sa chambre, tu vas te calmer un peu.
Ça l'aide pas.
Hey, c'est pas du tout, là. Ça à sa place, je ferais quoi? C'est ça qu'il fait, le petit loup, là. Fait que là, ce qu'on faisait, là, c'est genre, il se pète à crier, il devenait rouge, vin, là, puis il y a plein de parents qui ont vécu ça, là, genre des crises atroces, là, puis ils se débattent, là. Là, il me sautait dessus, je faisais juste l'empêcher de me frapper, puis je disais, tu ne me frappes pas. Et je gardais là un ton là, super.
Mais tu sais quoi? Mon chum, il a commencé à quand, mettons, Émile, il se débat justement, il est en pleine crise, là, puis il a envie de nous frapper, tu sais. On le tient, puis on dit, là, on tient tes bras parce que en ce moment, on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. On a peur que tu nous frappes, on a peur que tu te fasses, que tu nous fasses mal.
Que
toi, tu te fasses bobo, tu sais. Fait que là, tu sais, on est comme, on te tient, puis quand on va te lâcher, tu sais, quand. On va sentir qu'on est en sécurité. T'sais. Puis je trouve tellement que c'est...
C'est tellement une bonne idée.
Tellement une bonne idée.
Ouais. Moi, je dis à Jeune, mettons, il se débattait. Je le tenais par les arbres, ça c'est loin. Et il essayait de me frapper, là, c'était vraiment ça son but. J'étais,
ah ouais.
Regarde-moi puis dis-le. Crie, t'es en colère.
Ouais, crie, ouais, dis-le. Ouais.
Mais il pliait, là, il était rouge, les yeux pleins d'eau, puis il était en colère, puis il criait, je suis en colère, à en perdre la voix. Je suis fâché. Je suis fâché. Puis là, là, il s'est mis à part pleurer, puis ça s'est tombé dans mes bras. Je le flattais, puis je te dis, là, t'es fâché. Puis il pleurait, puis tu ne sais pas pourquoi, puis c'est correct. C'est correct. Puis de valider son émotion.
Ouais, ouais. C'est ça qui fonctionne.
Triste. De mettre des mots. Fait que des fois, je disais, si t'es en colère, tu veux frapper sur des choses. Puis avec acheté le punching bag, je te frappe fort là-dedans.
Ben, c'est ça, c'est donner des alternatives de ce qu'il peut faire. Tu sais, souvent, on va dire, hey, non, on crie pas, là. Ou genre, hey, non, on fait pas ça. Mais là, lui, ça ne dit pas qu'est-ce qu'il peut faire en vivant cette grosse émotion-là. Tu sais, fait que sur ça, de dire, justement, comme tu dis, ben, OK, t'as le droit de crier. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il crie. Honnêtement, que ce soit en public, à la maison, peu importe, il vit son émotion, crie. Ce que je tolère moins, c'est frapper. Ça, tu sais, ça pour moi, c'est comme, OK, on l'encadre, donc, tu sais, on tient doucement juste pour qu'ils comprennent qu'on fait pas ça, tu sais, mais juste important de leur offrir des alternatives. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu sais, parce qu'ils savent pas, là, du haut de leurs 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais, je veux dire, ils apprennent tout ça, puis nous, on est là pour, tu sais, être un peu un coach, là, dans tout ça, tu sais, faut pas l'oublier, là.
Je me rappelle de Jules, à un moment donné, il mordait nos joues. Il avait 3 ans et demi, 4 ans, il était grand, il était conscient de ce qu'il faisait. T'sais.
Puis c'était-tu quand il était content ou quand il était fâché? Parce que moi, Emile, ah oui, OK. Nous, Emile, c'est quand il est content.
En colère, là.
Okay.
Il essayait de me mordre le visage parce que j'y tenais les mains.
OK.
Il m'a amené, il s'est mis à mordre la gêne, j'ai réussi à me déprendre. Puis juste à 100 mètres du mordre de la sienne, il a reculé en tombant sur les fesses, puis tu allais me mordre. J'ai dit, vu comment c'est pas agréable?
Ouais.
Personne peut se faire mordre la joue.
Non.
Crie, crie, viens dans mes bras, puis crie. Moi, je lui disais, si t'as pas envie d'être dans les bras, va dans ta chambre et fais toute la colère que tu veux. Ça a duré. Maintenant, ça, c'est arrivé 3 fois. Là. Il est rentré dans sa chambre, il a claqué sa porte, je lui dis, c'est correct. Il lançait tous ses jouets partout.
Ah ouais, hein?
Mais en même temps, le petit gars, ses parents viennent de se séparer, son frère est malade. Donc, je te dis, c'était pas juste un passage de
Non, ouais. Non, non.
Son caractère. Je peux pas briser ça. Tu peux pas briser. Pose-toi toujours la question avant de dire « je vais briser son caractère ». Pose-toi la question « pourquoi il fait ça, tu sais? »
Non, exactement, ouais. Parce que comme tu dis, je veux dire, tu peux pas... Tu sais, toutes ces grandes émotions-là, ben elles doivent être là aussi, tu sais, sont dans un apprentissage. Tu peux pas... Si, là, tu le casses, plus tard, quand ça va être un adolescent, là, mon Dieu, qu'il va être rebelle, là, t'as même pas idée, là. Puis j'en vois dans mon entourage en ce moment à quel point... L'enfant, là, il est comme, il obéit, puis, tu sais, il est comme félicité, là, parce qu'il est donc bien obéissant, puis, hey, non, tu fais pas ça, puis là, tu sais, il est comme tout coincé, on dirait, puis je suis comme, il a l'air que tantôt, là, quand il va voter.
C'est pas pour rien, mais la génération de fini autant anxieux, puis.
Exact.
On s'est tellement fait. C'est comme, il fut une époque où le monde allait travailler dans les champs, le monde allait, il y avait une liberté aux enfants. Oui, là, ça, les tapes de sa gueule, puis c'était pas une bonne époque, là. C'est les enfants, puis c'était. Je te parle des années, mettons, 1915 à 1970. 75. Il y a eu ce 60 ans-là, 65 ans d'éducation au Québec où les enfants sortaient dehors en tricycle, puis il n'y a pas de surveillance. Fait. Et là, tu arrives aux années 80-90 où on essaie de mettre une discipline parce que les parents ne veulent pas avoir une nonchalance dans l'éducation de leur enfant, parce qu'on ne peut pas leur en vouloir.
Mais.
On réalise aujourd'hui qu'on a essayé indirectement et inconsciemment de mettre dans des petites cases des gens en leur disant qu'il n'y avait pas d'émotion, qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça, puis que ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Et tout le monde a besoin d'un cadre, là. Je dénigre.
Ouais.
C'est-à-dire, l'évolution, elle est normale en ce moment. Là, on est l'inverse. On est des parents qui voulons laisser les enfants s'extérioriser. Et c'est souvent des boomers, une certaine génération, qui vont te regarder de haut.
Ah ouais.
Tu une coche en public, puis tu fais
ouais.
Excuse-moi, c'est parce que nous autres, on les frappe pas avec une ceinture, là, disant que j'avais un veste. Désolé de ne pas avoir la même méthode, mon
ouais.
Ami.
Ouais, puis c'est top, ça, de se détacher du regard.
Parce que je me gênerais pas de le dire. C'est comme, regarde ailleurs. Ses parents de divorcer. Mange ton esti d'omelette, là. Ben, arrête.
C'est tellement vrai. Puis ça m'est arrivé aussi au magasin. Puis j'aurais dû m'y attendre. Là, on est dans un magasin de jouets. Quand est venu le temps de partir, Émile voulait pas partir. Lui, il voulait continuer de jouer avec ses jouets. Puis, tu sais, dans tout ma bienveillance de parentalité sécurisante et tout, de valider son émotion. Tu dis, je comprends que tu veuilles pas partir, on va revenir. Tu dis, quand même, là, il s'est mis à brailler sa vie, puis à crier, puis à faire une crise. Puis là, en plus de tout ça, moi, il fallait quand même que je fasse la file à la caisse parce que j'avais des choses à acheter, tu sais. Fait que tout le long dans la caisse, c'est la fin du monde. Puis, tu sais, hey, j'avais chaud. J'avais vraiment chaud parce que j'étais comme... Je restais douce, je restais calme, mais comme, hey, lui, là, il faisait le bacon à terre, là, tu sais, mais, puis je suis certaine, là, que le monde autour de moi, ben, encore une fois, c'est peut-être mon interprétation
mais j'avais au moins vraiment, 50% des gens.
Au moins 50% des gens devaient dire, hey, coudonc, resserre-le, là, faites quoi, là? Mais non, au contraire, moi, j'étais juste comme, ça va passer, tu sais, c'est comme une vague, puis il faut la surfer, puis tu sais, même si je lui dis, hey, arrête, il va continuer, tu sais, dans le sens que,
moi, je suis ultra ferme sur ce genre de truc-là, tout dépendant d'où vient la crise. Quand je vois que c'est du caprice, mettons, si je vois que c'est du caprice puis qu'il essaie de me manipuler...
Comme quoi, mettons?
Tout ça, mettons, de faire, mais si on n'en a pas à la maison, puis du jeune, et puis là, il dit ça devant tout le monde, puis je veux ce casse-tête, puis comme, tu n'as pas de 800 casse-têtes à la maison. Ouais. On n'a jamais rien à la maison, t'achètes jamais. Hey, mon chum, pour vrai, je vais t'essayer Charlie tout de suite. Moi, je m'en vais, mais si ma crise, fait, tout le monde te regarde. Ouais. Regarde comment on a la nono, là, toi pis moi. Là.
OK.
T'sais, là, ça va être pour vrai, là, ça, c'est du caprice.
Mm.
C'est, tout dépendant de l'âge. À 3 ans, il sait pas que c'est du caprice. Mm. Je dis que la bise, elle doit se serrer en vieillissant et non l'inverse. Ouais. Elle est super tête en partant.
Oui.
La lousse en vieillissant, en faisant, ah, il a compris. Ah non, comme tu dis, toi, ton enfant va partir sur une petite chire même dans l'adolescence. Par expérience, je regarde mes amis que c'était ça. Moi, chez nous, c'était. Plus on vieillit, plus la vis est serrée.
Mais c'est une bonne façon de voir la chose, je trouve. Ouais. Non, j'aime bien ton point.
Puis moi, je me rappelle, mon père, là, on a 16-17 ans. Moi, on est trois gars assez câbles, là, chez nous. Hein, on était en skateboard, puis on se tenait dans les skateparks, puis on consommait, puis jeune, puis on buvait beaucoup de bière, on fumait des battes, puis on écoutait du punk, puis on allait à des shows, puis on rentrait tard, puis on aimait les filles. Trois gars assez trash, là, tu sais. Je me rappelle qu'un jour, mon père nous dit, autour de la table, qui fume des battes ici?
Ah ouais.
De quoi? Pas grave, j'ai tellement fumé des battes au début des années 80. C'est parfait, pas ça, là. Nous, j'ai aucun problème. Vous avez permission, mais si vous voulez fumer du hash, fumer du weed, j'ai aucun problème avec ça. Vous faites les gaffes, vous faites du moche, puis de l'acide, ça, c'est votre asti de problème, mais qu'est-ce que ça fait vraiment bien? Ben, si vous voulez fumer des battes, allez-y, là. Il dit, m'en calisse. Juste parce que là, ils viennent de délousser la vis, là. Ben, automatiquement, t'as pas nécessairement plus envie de le faire.
Ben non, mais c'est juste que ça devient plus un interdit. Fait qu'on dirait que c'est moins le fun dans ce temps-là. Ouais.
Et il y a le fait qu'il y a un lien de confiance. Et moi, je me rappelle, ton père est lousse, mais je sais, non. La journée que mon frère, un de mes deux frères, a fait un bad trip sur le moche. Il appelle à la maison, c'était l'époque du téléphone de maison, on n'avait pas vraiment de cellulaire. C'est moi qui réponds, mes parents sont en train de jouer aux cartes, je me retrouve avec des amis à la table. Et, je réponds, c'est mon frère, dont je vais taire le nom. Il dit, hey man, si je fais un bad trip de moche, là, et je fais pas, hey man, viens me chercher. Puis je suis comme, venez te chercher. Là. Il me fallait que j'emprunte le char d'appel, je te ramène à quelle heure? Mais oui, ça, je travaille demain matin, genre, t'es où, là? Et il me dit, passe-moi pas, tu sais. Je suis comme, t'es sûr? Oui, passe-moi pas. Fait que je dis à mon père, je pense qu'il a trop bu. Fait que le père va aller, tu sais, il y a un kid de 16-17 ans qui a trop bu, tu sais. Je donne le téléphone à mon père, puis il fait, ouais, OK, t'es où? Excellent, mon homme, je m'en viens, panique pas. Il regarde ma mère, il s'est envoyé une bouteille de vodka, le grand cave, là. Là, je suis comme, ah, mon frère, il a pas dit la vérité. Il me fait un clin d'œil, il dit, viens, attaque-moi, toi. Ah, OK. Mon frère, il a pu dire à mon père, hey, père, je me sens pas bien. Je fais un bad trip de moche. Comme ça, je vais mourir. Viens me chercher, s'il te plaît. Ça fait mal, j'ai mal partout. C'est beau, moi. Il a sécurisé ses enfants.
Ouais.
Il est allé le chercher dans un party. Il a pas donné de merde à personne. Pas fait de hey, vous autres, vos parents vont s'en aller. Non, c'est parce que oui, dans la salle de bain, quelques jours, viens de moi. On l'a pris, il a regardé tout le monde, il a dit bonne soirée, merci beaucoup pour l'appel. On est parti, on est arrêté dans un Lafleur, on a mangé une poutine, et mon père calmait mon frère en disant écoute, j'ai jamais fait de bad trip chez moi, je sais pas ce que c'est. Mais d'après moi, dans une heure ou deux, tu vas te sentir mieux, puis on prend une bonne douche, tu vas revenir normal, je sais que t'as peur. J'ai déjà fait aussi, tu sais, comme trop boire, c'est la même chose, puis il le rassurait, puis il essayait de le faire rire, puis j'étais là, on mangeait une poutine. Il dit, on va rentrer à la maison, tu vas dire à ta mère, t'as trop bu, là. Tu vas prendre une bonne douche froide, ça va t'aider. Puis le lendemain, on est à la table, on est en train de déjeuner, mon frère s'assoit, mon père qui rit, il se fout de sa gueule. Man, t'étais tellement laid hier, là. Le petit coquille qui a peur de rien, là. La fleur, c'est mais sais-tu quoi? C'est ce que je veux être pour mes gars.
Ouais, c'est ça. Savoir qu'ils peuvent compter sur toi, là.
Ils vont faire la fête. Ils vont essayer peut-être des trucs qu'il faut pas. Mais s'ils ont quoi que ce soit, je veux qu'ils se sentent en sécurité.
Ouais. Puis j'ai
confiance.
Oui, puis j'ai lu une citation qui disait, tu sais, si t'es pas là pour les petits problèmes de tes petits-enfants en ce moment, ils voudront pas s'ouvrir à toi quand ils vont être plus grands avec leurs plus gros problèmes. Tu sais, c'est ça commence là, là. Tu sais, même si nous, à nos yeux, mettons, il a brisé son camion, là, puis je suis comme, OK, c'est vraiment pas grave. Ou genre, non, il a fait de quoi. Là. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que de réaliser ça aussi, tu sais, ça part de la petite enfance, tout ça, là, de cette confiance-là qui a besoin d'être bâti, tu sais.
Être validé, tu sais. Il faut qu'il soit validé dans ses émotions.
Ouais, absolument.
À bien ce qu'on disait tantôt, tu sais, valider puis respecter son émotion. Des fois, je vais faire, OK, je le regarde moi. C'est vrai que c'est plate. Ça fait même chier, puis par arrive, parce que j'ai pas dit un beau mot. Ça fait chier. Il est brisé, là, ton bonhomme Spider-Man, ça fait chier. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce qu'il y en a d'autres bonhommes Spider-Man? Oui. Puis quand on va avoir d'autres sous, on en rejettera un. En attendant, dis-toi que tu as deux Spider-Man, puis par arrive, parce qu'il y a deux morceaux de Spider-Man. J'essaie de que justement, on valide ce qu'il vit. Puis...
Ouais.
Mais moi, j'ai envie que la journée que mon enfant fait un bad trip, mais qu'il n'a pas envie de se pitcher en bas d'un pont.
Oui.
Il m'appelle. La journée qu'il va y avoir une peine d'amour qui peut se mettre en pleurant en disant parti. Puis j'ai des idées noires, pas, s'il te plaît, viens m'aider. Je pense que c'est ça être une famille, c'est ce que je veux être pour mes gars.
Oui. Ben c'est beau. Tu dirais que ce serait quoi tes plus grands défis comme en tant que papa? Y a-t-il des choses sur quoi tu dois travailler?
Mon impatience, c'est le travail.
Comme la conciliation, travail famille.
Une journée que je me sens pas coupable de ne pas être sur mon téléphone devant mes gars.
OK.
Que je travaille beaucoup. Je fais trop de place au travail dans ma vie. Une séparation, pour ceux qui l'ont vécu, ça coûte cher. Et je suis parti de quelqu'un qui avait beaucoup de sous à me séparer, en perdre beaucoup, vendre ma maison, la maladie du petit, la COVID. Fait que tu sais, j'ai eu un cocktail financier où je suis passé de très aisé à épelaire, genre on a des dettes puis plus une scène, tu sais.
OK.
Fait qu'en fait, je travaille comme un fou pour
compenser
la pente. Ouais, compenser comme... c'est rembourser ces marges de crédit-là, cette dette-là. Parce que le monde, ils le savent pas, mais quand ton enfant tombe malade, tu reçois pas un chèque là, du gouvernement, là, puis des médicaments, t'en as à payer. Fait que... quand tu travailles pas pendant 8 mois non plus...
À cause de la pandémie, c'est ça?
Non. Le 8 mois, je n'ai pas travaillé à cause de la maladie.
La maladie.
Ils sont chevet, on avait des traitements, on avait... T'as pas le moral non plus. Ma job, c'est de faire rire. Fait que quand ton enfant a cancer du cerveau, t'as pas envie de faire rire tout le monde. Fait que j'ai travaillé pendant 8 mois parce que j'étais à son chevet à m'occuper de lui, sa mère aussi, puis on alternait, puis des fois il allait chez nous, puis t'as une plaie à nettoyer, faut que tu retournes à Sainte-Justine, tu peux pas travailler, tu peux juste pas. Et
c'est sûr que t'as pas la tête à ça.
Mais non. Je vivais sur tout ce que j'avais de côté. Mais tu sais, j'avais quand même une maison, 2 voitures, mon ex venait d'ouvrir un restaurant, et toutes mes économies ont fondu, le monde il réalise pas. Travaille pas pendant 8 mois, Véro, là, sans aucun dollar qui rentre, là. 8 mois, tu vas te réaliser que mon hypothèque est bien chère. Hein, j'ai 2 chars. Hey, ça va beaucoup plus vite que tu penses. Fais ton budget, puis tu sais, ça me coûte 3 600 par mois avec les 2 voitures, ça. Puis là, tu fais, fois 8, c'est quand même, ça va me prendre 30 000 piastres de côté. Et les prochains mois, ça va me prendre de l'argent aussi pour payer le prochain hypothèque. Puis là, tu fais, gars, je vais prendre ce que j'ai de côté, que j'avais mis de côté pour payer les taxes de la compagnie, puis les impôts. Puis là, tu fais, OK, on va piger là-dedans, là, puis ça va être correct. On a pigé 1-2 mois là-dedans, puis après ça, on a eu la même semaine que je pouvais commencer à travailler, la pandémie est arrivée. Fait que là, je pouvais pas travailler pendant... J'ai réussi à faire de la radio un peu l'été dans les remplacements, ça faisait un peu d'argent, mais on remontait pas la pente. Et là, arrive la séparation, les avocats, les ci, les ça, puis le moment tu fais, j'ai plus rien de côté, alors que j'ai même pas un ami, j'avais tout, tu sais. On n'était plus engagé nulle part parce qu'il y avait plus de travail pour personne.
Mais là, aujourd'hui, c'est-tu comme un syndrome post-traumatique là, de ces moments-là que tu essaies de travailler comme un
fou? Je suis en train de finir de rembourser tous les impôts de cette année-là, mais la journée que tu dis, OK, parfait, je dois, mettons, je dis un montant X, OK? Mettons, je dois 63 000 au gouvernement provincial puis 38 000 au fédéral pour mes impôts puis mes taxes. Mettons, on dit c'est un ensemble. OK, mais ça prend quand même pour rembourser 90 000, c'est 180, tu sais. Mais pendant que tu fais ce 180-là à travailler 16 jours semaine, t'en payes pas pour ton année d'après.
Ouais.
Puis là, le gouvernement fait, faut que tu nous payes tout de suite. Chris, on sort d'une pandémie, bro. Genre, Moi, j'ai pas juste eu une pandémie, là. J'ai eu un enfant malade aussi, j'ai pas travaillé. Tu donnes pas un fucking shit aux parents d'enfants malades. Mais Chris, que la PCU t'en a donné tout bord, tout côté à n'importe mm-hmm. qui pouvait te fourrer.
Ouais.
Quand moi, c'était 2000 quelques piastres de médicaments, t'étais où?
Mm-hmm. J'en reviens pas que c'était dont t'as eu.
Pour aider les parents, t'sais. Puis moi, j'appelais mes compagnies d'assurance que je paye depuis des années, j'ai des assurances. Ils font, ah non, on couvre pas le cancer de ton enfant, on couvre le tien. Si toi, t'as le cancer, on couvre pas celui de ton enfant. Là, t'appelles ton assurance hypothèque en disant, écoute, tu dis que s'il y a une invalidité, je peux suspendre 3 mois, là, je paye genre 8 piastres de plus par mois depuis 4 ans là, pour ça. Là. Genre, mais là, j'ai une invalidité, je peux pas travailler, mon fils a le cancer. Ah non, mais c'est votre fils qui a le cancer qui est invalide, c'est pas fou. Là, tu fais, OK, ben, je paye de l'argent à tout le monde, à des syndicats, tout le monde.
Ouais.
La journée que j'ai besoin de recevoir un chèque pour m'aider après 8 mois où j'ai pas demandé une crise de scène à personne,
ouais.
Ça, c'est un placement. Que là, en plus, arrive un an et demi de pandémie avant de pouvoir avoir un chèque ou deux, là, tu sais.
Ouais.
Fait que ça a été comme, j'ai juste loadé mes marges de crédit. Là, j'ai un peu d'argent qui rentre. Tu sais, OK, all right, je peux clairer ce marge de crédit-là. OK, all right, là, on se sépare. OK, on va faire ci, on va faire ça, on va vendre la maison. OK, on peut couvrir, mettons, 70% des dettes. Mm. Mais là, tu fais comme, oui, mais là, tu sais, c'est comme si tu dans un.
Ouais.
Et en ce moment, tu sais, moi, on m'avait dit, genre, des parents d'enfants malades m'avaient dit, calcule 3 ans. Après les bons résultats de ton enfant, avant de te remettre sur pied financièrement.
Tant que ça.
Oui, parce que, comme je te dis, tu l'aubes tout. Tu mettons, au début, tu vides toutes tes économies. Parce que changer de rythme de vie, tu peux pas, la journée qu'on t'annonce le cancer de ton enfant, tu peux pas vendre ta maison le lendemain. Tu peux pas, tout dépendant, surtout, je parle, moi, je suis pigiste, là, le mot qu'il faut, mais moi, ma job, je pourrais. Même là, assure-toi que tu peux, là, tu sais. Mais là, t'as 2 voitures à payer, là. Chacun a des assurances. T'as l'assurance vie de ta femme, t'as ton assurance vie à toi. T'as.
Ouais.
T'as ton sel, son sel à elle, les contrats. Tout. Tu réalises pas à quel point ça va vite. Et tu fais, hey, on a beaucoup d'argent de côté. J'ai des gros contrats. J'ai annoncé mon one-man show. J'avais 40 000 billets vendus, genre, tu sais. C'était comme.
Ouais, ouais.
Tout l'argent va rentrer. Puis finalement, tu brûles tout ce que t'as de côté. Tu rentres dans tes marges de crédit. Tu sors tes placements. Tu penses que tu vas recommencer à travailler. La pandémie arrive, t'as pas d'aide financière, fait que tu fais juste creuser. Tu vends ta maison, tu rembourses juste 70% de ça. Là, pendant que tu travailles, ben là, tu continues à payer tes taxes, tes impôts comme travail autonome. Fait que là, tu remontes à coût de 5 000 $ tes dettes, mais il y a des intérêts qui sont plus gros que ce que t'es capable de rembourser.
Mm.
Tout le monde avait dit, donne-toi 3 ans comme pigiste pour remettre du cancer de ton fils. Et mon fils a eu une récidive jusqu'en le 27 juin dernier, tu sais, fait que ça n'arrête juste plus.
Mm.
Et là, je continue à travailler parce que j'ai dit à Xa, on est habitué, un cancer pour nous, c'est quasiment une amygdalite. Fait que c'était ça le 4 ans que je m'étais dit après ma séparation. C'est genre les défis financiers.
Mm.
Je pensais pas avoir à le vivre. C'est, oh, mais d'avoir eu une enfance où, pendant un bout de temps, j'ai eu un creux, d'avoir vu ma mère galérer, on dirait que c'était pour ça. On dirait que c'est pour ça que c'est arrivé. Tu sais, je crois pas que rien arrive pour rien. Fait que la journée que moi, il a fallu que je me retrouve à galérer avec 2 enfants parce que, alors, je me séparais, puis que là, j'avais des dettes, puis que, là, je parte à Sainte-Justine, si sans pleurer dans mon gars, pour lui garder une morale positive, puis là, tu te meurs, puis là, tu fais, ah, si j'avais un autre parking sur la carte de crédit, un autre usine sur la carte de crédit, un autre. Là, tu sais, comme, à un moment donné, j'ai fait, hey, j'ai vu ma mère galérer comme ça pendant 2 ans et demi de m'amener. Mm. Pour moi, c'est rien, 2 ans et demi, mais je fais juste 2 mots, ça va mal, là, tu sais, fais comme.
Mm. Puis là, est-ce que tu penses que tu vas retrouver un équilibre bientôt ou...
Je suis en train de l'atteindre, tu sais. Là, je gagne super bien ma vie. J'anime 3 shows télé. Je suis à la radio.
Mm.
Moi, je m'étais dit que jusqu'à, mettons, début 2024, je vais être revenu financièrement où j'étais en 2019. Genre, j'avais le même montant de côté. Pas de dette. À me relever. Il a fallu que j'en ai une maison. Je viens de vivre dans le 5e.
Non, ben, c'est ça. C'est là que tu réalises que, tu sais, je comprends que c'est un de tes défis, que tu travailles beaucoup, mais tu sais, tu le fais parce que, aussi, en quelque part, ben, de un, au moins, t'aimes ça, là, tu sais, t'aimes ce que tu fais, mais tu sais, ben, c'est parce que t'as pas le choix, t'as, on a des factures à payer, tu sais, je pense que.
J'essaie de servir d'un modèle, ça, les gars. Mm. Parce que, eux autres aussi, ils vivent l'épreuve, là.
Mm.
Eux autres aussi, ils vivent le cancer, là.
Ouais.
Mon fils, ça, il affronte un cancer. Ça fait 3 cancers qu'il affronte, là, tu sais.
C'est comme ça que se termine la première partie de l'épisode avec Jonathan Roberge. J'espère que vous l'avez aimé. Restez à l'affût de la deuxième partie qui sera consacrée à l'histoire de Xavier qui a été diagnostiqué d'un cancer au cerveau en 2019. Merci, à la prochaine!